Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire criminelle de 2007 à la Grande Motte dans l'Hérault. L'assassinat de Paul Missler à la sortie d'une boîte à partouze. Vous allez retrouver le trio magique, le mari, la femme et l'amant. Et à la fin de l'enquête, une issue assez surprenante. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous emmène à la Grande Motte, dans l'Hérault, dans la nuit du 21 au 22 avril 2007, vers 3h du matin, devant un club échangiste, le Vénoutien, un peu à l'écart du centre-ville. Vous voyez le couple là, qui sort? Oui, je l'ai remarqué moi aussi, le monsieur est sensiblement plus âgé que la dame. Oh, faites pas le rabat-joie, il a 60 ans, elle en a 40. Mais ils sont mariés, hein, vous savez. Échangiste mais marié. Lui, il s'appelle Paul, et elle, Diane. Paul et Diane Missler. Ne les perdez pas de vue. Lui, qui s'approche de leur voiture, et elle, qui s'attarde un peu dans les buissons. Concentrez-vous sur lui, parce que c'est lui qui va mourir. Il sort les clés de sa poche. Il va pour ouvrir sa voiture. Et vous voyez le type qui vient de surgir, c'est pas un fusil qu'il a à la main. C'est un fusil harpon, une arme de plongée. Et bim, il lui envoie une flèche dans l'épaule. Paul Missler hurle. Il titube. Et l'autre enchaîne, et cette fois, il le larde de coups de couteau. Bim, 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 bim. On n'arrive pas à les compter. Et il se tire en courant. Et là arrive un certain Jérémy qui était sur le parking, aussitôt rejoint par Diane. Il a tout vu. Et c'est lui qui appelle les secours. Mais trop tard, quand les pompiers arrivent, Paul Missler est mort. Les policiers de la municipale arrivent à leur tour. Ils interrogent Diane qui est en état de choc. Je sais que c'est difficile, madame. Mais tentez de nous répondre. Est-ce que vous avez vu l'agresseur?
Je l'ai seulement vu partir en courant.
Vous pouvez nous le décrire?
La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il portait une chemise noire.
Finalement, ce sont les gendarmes qui récupèrent l'affaire. Ils ratissent immédiatement le quartier. D'après le témoin, le type est parti en courant. Il n'est pas loin. Et assez vite, il localise un bonhomme.
Là, regarde, il est là.
À peu près à 400 mètres des lieux du crime, un type à moitié planqué sous une voiture, avec les jambes qui dépassent.
Sortez de là. Les mains en l'air. Voilà, les mains en l'air. Très bien.
Les gendarmes le fouillent. Il a ses papiers sur lui. Il s'appelle Franz Diegelmann, il a 40 ans, il est serveur dans un café de la Grande Motte. Et il est bourré comme un coin. Et bavard, hein.
Je vais le tuer par amour. Parce que je l'aime, moi, Diane. On est ensemble. Et je sais qu'elle m'aime aussi.
Donc ce serait un crime passionnel. Ce Franz Diegelmann aurait tué Paul Missler par jalousie pour récupérer sa maîtresse à 100%. Sur le papier, en l'état, c'est assez improbable parce que je vous rappelle que les Missler, mari et femme, sortent d'un club échangiste. La fidélité n'est pas la philosophie principale de l'échangisme. En attendant, laissons ce Diegelmann décuver. Il file en cellule de dégrisement. Et elle, qu'est-ce qu'elle a à dire? Pour l'instant, il n'y a rien à en tirer non plus. D'après les pompiers qui viennent d'arriver, elle est en état de choc.
On va être contraint de la placer sous sédation. Vous ne pourrez pas l'interroger pour le moment. Hein.
Les pompiers la ramènent chez elle, où elle retrouve son fils de 7 ans, leur fils de 7 ans, à qui elle va devoir expliquer que son papa a été assassiné. Je me dis que, le temps que l'autre dessoule, j'ai le temps de vous raconter deux ou trois choses sur ce couple. Ce couple que formaient Diane et Paul Missler, le mort. Ils se sont rencontrés il y a 10 ans, en juin 1997, dans un avion, figurez-vous. Un avion en vol pour Madagascar, dont Diane est originaire. Un coup de foudre dans l'avion. 20 ans de différence d'âge, certes, mais Paul Missler porte beau, comme on dit. Avec, après le coup de foudre, un petit problème à régler, ils sont en couple tous les deux. Mais qu'importe, Paul quitte sa femme et Diane quitte son compagnon. Ils se marient un an après, le 1er juillet 1998. Et ils s'installent à la Grande Motte. Paul a de l'argent, il dirige un grand groupe bancaire à Montpellier. Diane n'en a pas, qu'importe. Paul fait l'acquisition de 2 magasins de vêtements et de chaussures, et Diane en devient la gérante. Et un an plus tard, naît un enfant, un petit garçon. Voilà donc l'histoire de ce coup de foudre qui aurait donc tourné vinaigre au point que Diane prenne un amant, ce Franz Stiegelmann, qui par jalousie vient donc de tuer son mari. On vient de recevoir le rapport d'autopsie. Il n'y a pas allé de main morte, ce Stiegelmann. Le légiste a compté les coups de couteau. Il y en a 20. Il conclut, l'agresseur a fait preuve d'un acharnement contre la victime qui démontre qu'il avait l'intention de tuer. C'est le moins que l'on puisse dire. Après avoir dessoulé, Franz Stiegelmann se retrouve le lendemain face aux gendarmes, à la gendarmerie de Lunel. Écoutons ce qu'il a à dire.
Bah, c'est simple, j'ai voulu mettre fin au calvaire de Diane.
De quel calvaire est-ce que vous parlez, monsieur? Son mari lui imposait des orgies sexuelles. Il n'était pas consentante. Il les lui imposait. Et s'il fallait, par la violence.
De quel genre de violence? Bah, un jour, par exemple, elle était blessée aux fesses. Bah, en fait, c'est son mari qui lui avait arraché son string trop violemment, vous voyez. Il la vendait. Il l'a frappée, il l'a violée, il l'obligeait à se prostituer. Elle était totalement asservie à lui. Je pouvais plus supporter ça. Parce que moi, je l'aime, Diane. Ouais. Moi, je l'aime.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Madame Missler et vous? Et d'ailleurs, c'était Cannes.
C'était il y a 2 ans. J'étais serveur dans la pizzeria qui est juste à côté de sa boutique de chaussures. Et donc, bon, à force de se croiser, ben, un jour, on s'est parlé, quoi. Et puis après, ben, le matin, je balayais devant sa boutique. Et puis, après, vers 11h, elle venait boire le café. Enfin non, elle buvait du thé au citron. Et puis, bon, ben voilà, le temps passant, on est tombé amoureux. Et on a pris l'habitude de se voir tous les matins, à 9h. Elle passait chez moi, elle arrivait avec des viennoiseries, et puis bon, voilà, on faisait l'amour, quoi.
Il raconte ensuite que Diane a mis des mois à se confier à lui.
Et petit à petit, elle a commencé à me dévoiler le calvaire qu'elle vivait, quoi, avec lui. Et puis début juin 2006... Un matin, elle est pas venue. Elle m'a appelé en pleurs pour me demander de la rejoindre. J'y suis allé. Et là, elle m'a dit qu'elle avait été violée par son mari et par 2 hommes. Et moi, à chacune de ces révélations, quoi, j'étais dans une souffrance terrible, quoi. Ce qu'elle vivait était atroce. Ça m'était insupportable. Il fallait en finir, quoi.
Bien. Alors, monsieur, revenons à la soirée d'hier. Qu'est-ce que vous faites avant de passer à l'acte?
J'ai fini mon service vers 1h30 du matin.
Après, je suis rentré chez moi. J'ai fini mon service vers 1h du matin. Et après, je suis pas rentré chez moi. Je suis allé au bar du casino. Là, j'ai pas mal bu. Et puis, j'ai gambergé aussi. J'ai imaginé Diane entre les mains d'autres hommes. Et puis, vers 2h du matin, d'abord, je suis allé chez eux. Et puis j'ai vu que les lumières de leur appartement étaient éteintes et que la voiture n'était pas là. Et donc une fois de plus, j'en ai déduit qu'il avait encore forcé Diane à aller au Venezia, quoi. Il raconte qu'il avait un fusil harpon dans le coffre de sa voiture et un couteau dans sa boîte à gants. Il est allé se garer sur le parking et il a attendu leur arrivée. Et l'arme, monsieur, le couteau, où est-il? Je sais pas, je l'ai jeté en m'enfuyant. On ne le retrouvera jamais. Alors, quelle impression retirez-vous de ce premier interrogatoire? Si ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que si l'autre avait fait de sa femme une esclave sexuelle, s'il la battait, s'il l'a forcée à coucher avec d'autres hommes devant une cour d'assises... Ce Diegelmann peut s'en tirer à très bon compte. On conclura que le mort était un salaud, et que tuer un salaud, ma foi, c'est moins grave que de tuer un brave type. Les jurys d'assises, vous savez, sont sensibles à ce genre d'histoire. Si elle est vraie. Parce qu'à côté de ça, Paul Missler a plutôt bonne réputation à la Grande Motte. Il a dirigé un groupe bancaire, il est président d'une association française de banquiers. Certains savaient, pour les parties de Jean Banlaire, au Venugia et ailleurs, mais personne ne l'imagine en tyran domestique. Personne. Dans la foulée de sa garde à vue, les gendarmes procèdent à une perquisition chez Franz Diegelmann. A priori, il n'a pas menti sur sa relation avec Diane.
Dites, monsieur...
À qui appartiennent ces bas de femmes-là, qu'on vient de retrouver près de votre lit?
Ils appartiennent à Diane.
Et puis dans un tiroir, les gendarmes découvrent un croquis, un plan dessiné à la main, qui reproduit très précisément le lieu du meurtre. On reconnaît le Venugia, le parking et l'emplacement de la voiture. Et ça... Ça n'est pas bon du tout pour Diegelmann. Ça signe la préméditation. Il avait préparé son coup. Et vous noterez que ça n'est pas exactement ce qu'il a dit en garde à vue. En garde à vue, il a fait passer le meurtre pour un coup de sang, alors qu'il avait bu. Il a menti. Et s'il a menti sur ce point, alors on peut douter de tout le reste. En attendant, il est présenté à un juge d'instruction qui le met en examen pour assassinat. Et qu'il expédie à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, charmante prison moderne collée à l'autoroute. Et maintenant, qui a-t-on envie d'entendre? Allô? Oui, Diane. Elle est convoquée à la gendarmerie en qualité de témoin. L'enjeu est de savoir si elle confirme avoir été victime de son mari. Le temps qu'elle s'assoie face aux gendarmes, laissez-moi vous dire à quel point cette femme est belle. Une beauté noire, stupéfiante. Bref, alors?
Eh ben non. Mon mari m'a jamais forcé à quoi que ce soit. J'ai toujours été consentante sur tout. On avait une vie libertine. Mais moi je l'aimais beaucoup, Paul. Beaucoup.
Vous confirmez que Franz Diegelmann est votre amant?
Oui.
Lui dit que vous lui avez parlé d'exactions que votre mari commettait à votre endroit.
D'exactions? Moi, de toute façon, j'ai jamais parlé de mes relations intimes avec Franz. Mais c'est faux.
Comment expliquez-vous que Monsieur Diegelmann ait pu savoir que vous étiez au Venugia?
Sans doute parce qu'il nous pistait. Moi, non, je lui ai jamais dit que j'y étais déjà allé.
très intéressant. Ça n'est plus du tout la même histoire. Et c'est pas fini. Quelle était, madame, la nature de votre relation avec Franz Diegelmann?
Un amant? C'était sexuel, rien de plus. Uniquement sexuel.
Lui parle d'une relation amoureuse.
Amoureuse, non. Non, c'est de la mythomanie.
Et vous ne pensez pas qu'il attendait davantage?
Si, sûrement. Franz est un toutou qui en veut toujours plus. Mais pour moi, les choses étaient claires. Hein.
Ça n'est décidément plus du tout la même histoire. Et donc, ou il a menti, ou alors c'est elle qui ment. Et a priori, on a tendance à penser que c'est plutôt lui qui ment. Mais les gendarmes sont professionnels. Ils s'intéressent aussi à elle. Ils étudient ses relevés téléphoniques. C'est bien intéressant ça aussi. Pour un amant occasionnel, elle l'appelle beaucoup, son Franz. Y compris la veille du meurtre. Elle l'appelle à plusieurs reprises. Et elle lui envoie des SMS. Et donc, les gendarmes placent la souris sur écoute. Et là encore, c'est très instructif. La Miss a un sacré rendement. Elle a des amants partout en France, et même à l'étranger. Une pétroleuse. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le sujet des conversations qu'elle a avec ses amants. Elle parle de sexe, c'est vrai. Mais pas que. Elle parle surtout d'argent.
J'aurais besoin que tu m'envoies un peu d'argent. C'est important, c'est un peu urgent, tu peux le faire ?
Et à part ça, elle ne parle jamais de son mari, Paul, ni de sa mort. Alors bien sûr, les gendarmes lui demandent de s'expliquer sur cette gourmandise financière. Elle donne une explication qui, ma foi, est assez convaincante.
Depuis la mort de Paul, les gens viennent plus au magasin, quoi. Et moi, j'ai bien besoin d'argent pour vivre.
Mouais. Ça tiendrait si, une fois la somme empochée, elle n'allait pas la dépenser dans les restaurants et les boîtes de nuit du coin, et pas avec celui qui lui a fourni la thune. Les veuves joyeuses attirent toujours l'attention. En attendant d'y voir plus clair sur le rôle que Diane a pu éventuellement jouer dans l'assassinat de son mari, essayons de répondre à une question. Est-ce qu'elle avait intérêt à ce que Paul meure? Eh bien, la réponse est non. Au contraire, avec la mort de Paul, elle a tout perdu. Elle n'hérite pas. Ils avaient un projet tous les deux, d'aller s'installer sur l'île de la Réunion. Paul y avait acheté une belle maison face à la mer avec une piscine pour 600 000 euros qu'ils avaient commencé à meubler. Bye bye la maison. Avant, ils avaient beaucoup voyagé, ils étaient allés notamment au Brésil. Fini les voyages. Donc, et ça c'est important, Diane n'avait aucun intérêt à voir mourir Paul. Financièrement, aucun. Et le temps passe dans cette enquête. Un mois, deux mois, six mois. Et les gendarmes finissent par se demander si Diane ne serait pas l'instigatrice du meurtre de son mari, le commanditaire. Auquel cas, pour l'instant, Franz Diegelmann la couvre. Parce qu'il est très amoureux. Et ça se confirme. Depuis sa prison, il lui écrit tous les jours, et même certains jours, trois lettres. Des lettres qui sont bien sûr interceptées et décortiquées par la juge d'instruction. Il y est question de retrouvailles, de vie à deux. Franz Diegelmann écrit aussi qu'il regrette son geste. Il lui demande pardon. Et surtout, il lui demande d'être là quand il sortira. Il est raide dingue de cette fille. Au point d'avoir tué son mari pour lui être agréable, parce qu'elle le lui a demandé. Notez néanmoins que Diane Missler ne répond à aucune de ses lettres. En octobre, 6 mois après le meurtre, la juge fait venir Diegelmann dans son bureau, dans l'espoir de le faire craquer. Et elle lui dit la vérité.
Vous savez, monsieur Diegelmann, que vous n'étiez pas loin de là le seul amant de madame Missler. Et depuis que vous êtes en prison et que son mari est mort, je dois vous dire qu'elle s'en donne à cœur joie.
Sur sa chaise, Franz Diegelmann a beaucoup de mal à encaisser le coup. La juge en profite.
Alors, je vais vous lire quelques extraits de la déposition que madame Missler a faite à votre sujet. Voyons. Oui, voilà. Je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai jamais. J'aimais mon mari. Mon mari, écoutez bien ça, mon mari ne m'a jamais frappé, jamais prostitué, jamais forcé à m'offrir à d'autres hommes. Un commentaire, monsieur Diegelmann ?
C'est très cruel, très cruel. Et elle voit bien qu'il accuse le coup. Parce que il paraît clair qu'il a cru que c'était vrai. Il a cru que Paul battait Diane. Et s'il l'a cru, c'est parce qu'elle le lui a dit. Et si elle le lui a dit, c'est peut-être pour le remonter comme un coucou. Et pour le pousser au meurtre. Mais aujourd'hui, là, devant la juge, Franz Diegelmann ne craque pas. Il ne la lâche pas. Mais la juge sait qu'elle a semé une graine et qu'à partir de maintenant, dans sa cellule, il va gamberger. Et c'est assez bien joué parce que 2 jours plus tard, Franz Diegelmann rédige un courrier à la juge. Diane est la commanditaire de l'assassinat de son mari. Il raconte notamment le week-end qui précède l'assassinat, leur premier week-end en tête-à-tête. Ils sont allés à Paris. Bel hôtel, bon restaurant, nuit d'amour. Et il dit que pendant tout le week-end, elle lui a mis la pression. Elle l'a remonté. Paul allait l'emmener au Venuzia, encore une fois, l'offrir à d'autres hommes. Et là, elle lui aurait dit « Arrête de dire que tu m'aimes. Tu parles, mais tu n'agis pas. » Et elle aurait ajouté « Fais en sorte que samedi prochain soit la dernière fois qu'il bande. » Incroyable. Elle lui aurait demandé clairement de tuer son mari. Mais est-ce que dans cette lettre, Diegelmann dit vrai? Est-ce qu'il n'invente pas tout ça pour atténuer sa responsabilité? Il a dû anticiper la question parce que dans sa lettre, il livre une preuve matérielle à la juge. Le croquis retrouvé chez lui, qui représente le parking, la boîte de nuit et la voiture, il dit que c'est elle qui l'a dessiné. Et il enfonce le clou en révélant qu'avant ça, il y a eu 2 tentatives de meurtre contre Paul Missler. Une fois, Diane l'aurait envoyé dans la région de Toulouse, chez une amie à elle, récupérer une poudre empoisonnée en provenance de Madagascar. Et il donne la date et l'adresse. Et il raconte qu'une autre fois, Diane l'aurait missionné pour entrer en contact avec un tueur à gages corse. Et là, il donne le nom. Dans cette enquête, la donne a totalement changé. Le 14 novembre 2007, 7 mois après le meurtre, Diane Missler est interpellée et placée en garde à vue.
Monsieur Diegelmann, madame, évoque une poudre maléfique que vous lui auriez demandé d'aller chercher à Toulouse. Est-ce que vous confirmez ? C'est n'importe quoi, enfin. Si je voulais empoisonner mon mari, pourquoi est-ce que je le tue pas à Madagascar avec cette poudre-là? On y allait 2 fois par an à Madagascar, parfois 3. Pourquoi ramener ça en France? Pourquoi demander ça à France? Il n'y avait pas de raison, enfin.
1 point pour Diane. D'autant que aucun poison n'a été détecté dans le corps au moment de l'autopsie. Elle dit par ailleurs qu'elle ne connaît pas de tueur à gages corse. Quant au dessin, au croquis du parking, la juge commande une analyse graphologique. Croyez-en mon expérience, ce genre d'expertise ne vaut pas grand-chose. Mais bon, l'expert dit que le dessin n'est pas d'elle. Reste une question qui intrigue les gendarmes depuis le début. Dites-moi, madame, pourquoi est-ce que vous n'étiez pas aux côtés de votre mari au moment de l'agression?
Ben, en sortant du Vénusia, on s'est arrêtés tous les deux pour uriner dans des buissons. Bon, forcément, mon mari a terminé avant moi. Et donc, c'est simple, quoi. Il est allé à la voiture tout seul, et puis, moi, quand j'ai eu fini, il a fallu que je nettoie mes chaussures avec des feuilles. J'en avais mis partout. Et puis, j'étais en talons aiguilles, c'était pas évident de marcher sur le dallage. Et j'ai même trébuché dans un trou. Donc voilà, c'est simple, quoi, ça. Ça m'a ralenti.
Explication crédible. Et donc, après 48 heures de garde à vue, elle rentre à la maison. Mais l'instruction se poursuit, et assez tardivement, en juin 2008, les gendarmes mettent la main sur le coffre-fort de Paul Missler. Et à l'intérieur, ils trouvent un document très intéressant. Une demande de divorce de Paul Missler, qui date de 2006, quelques mois avant sa mort. Jusque-là, il n'a jamais été question de divorce entre les deux tourtereaux. Mieux que ça. Sur une feuille de papier, Paul Missler consigne les absences de sa femme. Il voulait donc demander le divorce pour faute. S'il était allé jusqu'au bout, elle n'avait rien. Ni logement, ni pension alimentaire, ni boutique, rien. Les gendarmes interrogent un ami de Paul. Il confirme.
Ah oui, je me souviens, oui. Une fois, on était allé à la pêche ensemble. C'était quand 6 mois avant sa mort, hein. Il m'a dit qu'il voulait divorcer.
À la fin de son instruction, la juge a des doutes. Elle n'a pas de certitude quant à l'implication de Diane. Et comme elle a des doutes, normal, elle renonce à la poursuivre et à la renvoyer devant la cour d'assises avec Franz Stiegelmann. Elle rend donc ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Mais la famille de Paul Missler, qui est convaincue qu'elle n'est pas innocente dans ce crime, fait appel. Et elle obtient gain de cause. Diane Missler sera donc jugée comme complice de l'assassinat de son mari. Le procès s'ouvre le 19 avril 2011 devant la cour d'assises de Montpellier. Diane Missler comparaît libre. En toute logique, elle n'a donc pas à aller s'asseoir aux côtés de Diegelmann dans le box puisque lui est en prison et pas elle. C'est l'usage. Mais le président ne l'entend pas de cette oreille.
Madame, s'il vous plaît, veuillez aller vous asseoir dans le box. Allez-y, je vous prie.
Son avocate pousse des cris d'orfraie, mais le président ne cède pas. Et donc, les voilà côte à côte, Diegelmann et elle. Ils n'ont pas un regard l'un pour l'autre. Interrogé le premier, Diegelmann reconnaît qu'il s'est trompé.
J'ai fait une erreur impardonnable, quoi. Je pensais que Paul Missler était le pire des hommes.
Et il maintient que Diane Missler est l'instigatrice de l'assassinat. Les jours suivants, les débats se focalisent autour de Diane Missler. Les uns après les autres, ses amants sont appelés à la barre. On ne voit pas bien l'intérêt, ils n'ont rien à voir dans cette affaire. La plupart d'entre eux ne connaissent même pas Paul Missler. Dans son box, Diane garde la tête haute. Elle est un peu arrogante, peut-être. Et voici venue l'heure du réquisitoire de l'avocat général.
Je vous demande contre Monsieur Diegelmann une peine qui ne saurait être inférieure à 18 années de réclusion criminelle. Et contre Diane Missler, que je considère comme la meurtrière intellectuelle de cette affaire, je vous demande une peine qui ne saurait être inférieure à 22 années de réclusion criminelle.
«
demande plus pour elle que pour lui qui a tué. Et les jurés le suivent. Franz Diegelmann est condamné à 22 ans et Diane Missler à 25 ans de prison. Sur son banc, elle est stupéfaite. Elle fait appel, bien sûr. Mais en appel à Perpignan, la même logique s'impose. Elle prend toujours plus que lui. 18 ans et 15 ans pour Franz Diegelmann.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.